Les faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.
L'eau, la terre.
Bonjour, vous êtes sur CFM et vous écoutez Les Croissants Décroissants, un magazine d'écologie sans chichi.
La terre, on a un seul monde pour nos enfants, assurément. L'eau. La terre. L'eau. La terre. L'eau. Le jour du dépassement. La terre. Moins deux.
Écoutez Les Croissants Décroissants, un magazine d'écologie sans chichi. Et si vous voulez donner votre avis, faire des commentaires ou des suggestions, vous pouvez écrire à lescroissantsdécroissants@gmail.com. Cette seconde émission abordera le thème de photovoltaïque. C'est une question qui revient régulièrement dans tout ce qui est écologie. Nous allons aborder les grands principes de fonctionnement et le dimensionnement d'un parc photovoltaïque. Qu'évoque le photovoltaïque pour vous? Est-ce rentable? Améliore-t-il l'impact carbone? Utilise-t-il des terres rares? C'est ce que nous allons voir ensemble. Dans le principe de fonctionnement est assez simple. Il s'agit d'utiliser l'énergie du soleil, un rayonnement qui vient faire vibrer des atomes dans des plaques de silicium qui sont dans le panneau solaire. Les atomes vont être excités et vont produire de l'énergie. Pour récupérer cette énergie à la sortie du panneau, on a des onduleurs, quelque chose qui va transformer un courant continu en courant alternatif. Car à la maison, vous avez le courant d'EDF, un courant à 50 Hz de 220 volts. Il existe deux types d'onduleurs. Des micro-onduleurs qui vont être placés derrière chaque panneau ou sinon ce qu'on appelle un onduleur string qui va raccorder l'ensemble des panneaux. L'intérêt du micro-onduleur, c'est que si un panneau vient à casser, par exemple, ou est à l'ombre, eh bien, l'ensemble de la production continue à fonctionner. Par contre, sur un onduleur string, donc en série, eh bien, si un panneau vient à casser ou est dans l'ombre, on perd l'intégralité. Par contre, l'onduleur string, en général, est moins cher qu'un ensemble de micro-onduleurs. Un panneau, de quoi est-il composé? Eh bien, il n'y a pas de terres rares dedans. Les terres rares sont dédiées à toutes les machines tournantes où il y a des aimants. Le panneau est composé de verre, d'aluminium pour son cadre, et de plastique en général au fond pour encapsuler les cellules de silicium. Les principaux fabricants sont basés en Chine, vous l'avez deviné. En Europe, il n'existe que quelques fabricants qui fabriquent l'intégralité du panneau. Il n'y a que des assembleurs de cellules qui, la plupart, viennent d'Asie. Un panneau va produire de l'énergie et il demande également de l'énergie pour être produit. On peut considérer qu'entre 1 et 5 ans de production photovoltaïque permettent de construire un panneau photovoltaïque. Par contre, la durée de vie du panneau est de 20 à 30 ans. Il y a donc un certain gain à produire des panneaux photovoltaïques pour produire de l'énergie. Quand on parle panneau solaire, on parle souvent batterie. Une batterie plutôt au lithium. La composition d'une batterie au lithium, eh bien, c'est du lithium et du cobalt. Le cobalt pose quelques problèmes puisque 60% de la production mondiale se trouve au Congo où des enfants sont employés. Le lithium pose également des problèmes environnementaux. En effet, on vient pomper des ressources d'eau à des populations autochtones, notamment dans les grands salars en Bolivie. Par contre, la batterie au lithium ne demande aucun entretien et sa durée de vie est relativement longue. Par contre, aujourd'hui, il y a très peu de réutilisation du lithium car il coûte moins cher de venir l'extraire que de la sortir de la batterie.
Bon, ma nièce, la pro du climat débarque. Mais cette fois, j'ai pris les devants.
J'arrive, j'ai fini d'installer mes panneaux solaires.
Alors, c'est qui la pro du climat maintenant?
Avec le groupe EDF, vous pouvez produire et consommer votre propre énergie.
Alors, le photovoltaïque réduit-il l'impact carbone de notre électricité? En ce qui concerne les émissions de CO2, en France, nous sommes dans une particularité. L'énergie électrique est déjà fortement décarbonée. C'est un peu plus compliqué que ça. Si on regarde les statistiques, en général, 1 kWh d'EDF émet 72 g de CO2. Le photovoltaïque est dans l'ordre de 40 g de CO2 émis. Seulement, le mix France est produit principalement à partir de nucléaire et d'autres éléments comme du gaz. Le solaire va produire de l'électricité uniquement pendant la journée. Or, pendant la journée, c'est plutôt les centrales nucléaires qui viennent prendre le relais. Donc finalement, le photovoltaïque vient remplacer l'énergie nucléaire. Le photovoltaïque vient augmenter l'impact carbone de notre électricité. Ça, c'est en France. En Allemagne, je viens remplacer du charbon. En Allemagne, dans tous les cas, je suis donc gagnant sur le plan environnemental. Par contre, lorsqu'on vient ajouter une batterie à notre système, eh bien, on vient rajouter 50 à 150 grammes par kilowatt-heure d'émissions de CO2. On est donc dans un cas très défavorable. Le recyclage. Ce recyclage est déjà provisionné lors de l'achat de votre panneau. Une filière est déjà active, notamment en France, pour recycler. On vient séparer le verre, des métaux et des plastiques. Alors, quelle est la rentabilité? Gagne-t-on de l'argent à installer des panneaux solaires? La réponse est une réponse de Normand. Non, le prix sera à peu près équivalent au kilowattheure fourni par EDF. Par contre, on pourra dire oui, puisque vous la produisez, vous allez faire un peu plus attention à votre consommation. L'intégration électrique. L'intégration électrique des panneaux solaires sur le réseau EDF est relativement simple. En fait, l'intégration, c'est un peu comme brancher une nouvelle rivière sur un fleuve. Le fleuve, c'est le réseau électrique. La rivière, c'est votre production photovoltaïque. Par contre, quand vous allez faire un parc photovoltaïque de plusieurs hectares, vous ne pourrez pas vous brancher sur la première prise électrique. Vous allez devoir brancher le parc photovoltaïque sur un point de raccordement spécifique d'EDF. Il va donc falloir fabriquer une tranchée et se rallier à ce point. L'intérêt du photovoltaïque. Alors, on l'a vu, est-ce vraiment décarboné? En France, la réponse est plutôt non. En fait, c'est plutôt un choix politique. En quelque sorte, on supprimerait le nucléaire. D'autre part, lorsqu'on installe le photovoltaïque, si on considère l'ensemble des équipements et qu'on essaye d'assumer la production d'énergie pour ces équipements. Imaginons que vous ayez une plaque électrique qui fait 3 kW. Alors, vous allez installer des panneaux solaires pour 3 kW. Seulement, votre plaque électrique ne fonctionne qu'une dizaine de minutes par jour à cette puissance. Donc, vous allez installer 3 kW de puissance pour un usage de 10 minutes. Donc, pour avoir un impact positif en France, il faut produire de l'énergie, mais également la consommer. Les fermes photovoltaïques ont un gros défaut. Au lieu d'être installées sur votre toit qui est déjà construit, elles vont venir artificialiser des nouveaux sols. On va couper des arbres et ainsi relâcher le carbone qui était contenu dans les arbres. L'un dans l'autre, entre ce qui a été coupé et le gain réalisé en installant du panneau photovoltaïque sur la durée de vie du panneau photovoltaïque, eh bien le gain est nul. L'intégration électrique également de très grosse puissance implique l'usage de turbines à gaz. En effet, imaginons que vous avez une très grande surface couverte de panneaux photovoltaïques. D'un seul coup, un nuage passe. D'un seul coup, votre production d'électricité va être nulle. Par contre, chez vous, vous voulez toujours faire tourner votre machine à laver. Enedis va donc demander à un producteur d'électricité de pallier à ce défaut d'énergie sur le réseau. Le seul moyen de ramener très rapidement de l'énergie sur le réseau, ce sont des turbines à gaz. Il y a donc une adéquation entre l'utilisation de panneaux photovoltaïques en très grosse densité et l'utilisation du gaz. On peut se poser également une question. Y a-t-il toujours du soleil quelque part? La météo est un phénomène à l'échelle d'un pays, voire d'un continent. Quand il fait beau en Espagne, il fait beau en Italie, il fait beau en France, il fait beau en Norvège. Donc on ne peut pas compter sur le fait de répartir l'ensemble des panneaux photovoltaïques sur un continent pour produire une quantité d'énergie constante. Alors revenons-en à la maison. Surdimensionner augmente l'empreinte environnementale, car on va produire des panneaux, on va les installer et ils ne vont pas forcément être utilisés. Ils font donc dimensionner au juste assez. Il faut dimensionner sur les consommations d'été plutôt et ne pas essayer de couvrir la consommation hiver et nuit en utilisant des batteries ou en surdimensionnant le parc. Alors finalement, quel est l'intérêt d'installer des panneaux photovoltaïques puisque ça augmente l'empreinte carbone de ma maison? Eh bien, la réponse serait peut-être de sensibiliser à la rareté et la complexité de l'énergie. Quand vous avez le système sous vos yeux, vous voyez que c'est un système complexe, vous voyez également qu'on n'a pas forcément toujours de l'énergie à disposition. Pour résumer, les panneaux photovoltaïques, ça pollue plus que le mix français et ça utilise beaucoup plus d'énergie minière. Il faut donc réduire sa consommation, avoir la production à la maison y incite. Il ne faut surtout pas artificialiser, créer des structures dédiées. C'est tout le contraire de ce que l'on nous pousse à apprendre, notamment l'agrivoltaïque, c'est utiliser des terres agricoles dans un but de produire de l'énergie. Installer des ombrières sur des parkings, on peut se poser la question de la pérennité, puisqu'à terme, les voitures seront-elles toujours sur des parkings? Aurons-nous toujours autant de voitures? Et en plus, cela demande une structure additionnelle, souvent en acier, qui a un impact environnemental important. Tout le contraire également de ce qu'on nous pousse à faire, il ne faut pas faire des grosses installations, car 3 kW de crête sur un toit, c'est dimensionné par rapport au pic de consommation qui ne vont durer que quelques minutes. De plus, utiliser des batteries impacte fortement le bilan carbone. Je vous propose de nous retrouver dans quelques instants après...
see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Énergie renouvelable, un monde merveilleux. C'était It's a Wonderful World, écrit par George Douglas et George David Weiss, interprété par Louis Armstrong en 1967. Vous êtes toujours sur CFM et vous écoutez Les Croissants Décroissants. Aujourd'hui, nous parlons du photovoltaïque. Nous avons vu comment cela fonctionne, quelles sont les contraintes. Voyons maintenant comment l'installer utilement chez soi, sans faire pire en voulant faire mieux pour l'environnement. Alors, on l'a vu, il y a deux approches. La première, c'est l'autonomie. La seconde, c'est l'effacement du bruit. L'autonomie, c'est un petit peu comme un refuge. On va surdimensionner pour assurer le fonctionnement, quelles que soient les conditions. La plupart du temps, finalement, on ne va pas du tout utiliser le potentiel installé. Et cela a un impact fort, à moins qu'on soit très loin de toute infrastructure et que l'impact d'installer des panneaux solaires sera plus important que de créer l'infrastructure pour relier notre refuge au réseau d'EDF. La seconde approche, c'est l'effacement du bruit. Au lieu de regarder combien peut tirer notre plaque électrique, on va regarder quel est le bruit de fond, quelle est la consommation en continu de notre maison. Et on va essayer de faire le juste assez, juste produire cette énergie. Les pics de consommation seront par contre assurés par le réseau auquel on est toujours connecté. On va essayer également de lisser notre consommation pour rentrer le maximum de consommation dans le bruit. Alors, on peut commencer à lister des consommations. Un lave-vaisselle, c'est environ 2000 watts. Une lampe, c'est 4 watts, quasiment rien finalement. Une VMC, ventilation mécanique assistée, c'est 50 watts. Un four, c'est entre 1500 ou 3000 watts. Un four à micro-ondes, c'est 750 watts. Une pompe, 1000 watts. Un lave-linge, 2000 watts. Un chauffe-eau électrique, c'est 2000-2500 watts. Alors, on peut déjà commencer à travailler là-dessus. Le lave-vaisselle, pourquoi est-ce qu'on a 2000 watts? Parce qu'il va chauffer de l'eau. Et ensuite, il va faire tourner une pompe qui va consommer entre 10 et 50 watts. Le lave-linge, exactement la même chose. Il a une puissance de 2000 watts parce qu'il va chauffer de l'eau au départ et ensuite, il va faire tourner un moteur et éventuellement des pompes qui, elles, vont consommer entre 100 et 300 watts. Le chauffe-eau électrique, lui, il sert uniquement à chauffer de l'eau. Et il va s'enclencher pendant une demi-heure, une heure, une fois par jour à peu près. Alors, la stratégie dont on a parlé tout à l'heure, c'est faire rentrer les pics de production dans le bruit. Pour ce faire, on peut utiliser un chauffe-eau solaire. Un chauffe-eau solaire ne demande pas d'électricité ou sinon peut-être une pompe de circulation de 50 watts. Et c'est le soleil qui va produire l'énergie pour chauffer l'eau. On peut donc ensuite brancher notre lave-vaisselle, notre lave-linge et avoir de l'eau chaude en faisant juste tourner une pompe de 50 watts et n'en faisant pas de pic à 2000-2500 watts. On va ainsi lisser notre consommation. pour dimensionner la production. C'est relativement simple. En fait, cela dépend du climat. Vous avez un site qui s'appelle BDPV qui permet de voir les installations qui sont branchées autour de chez soi. On a ainsi une image de ce que l'on peut espérer avoir dans sa région. Il faut savoir qu'en gros, si on installe 1 kW crête de panneaux solaires, à la fin de l'année, on va produire 1 MWh de production annuelle. Bien évidemment, la production solaire va dépendre de la saison. En été, on aura beaucoup plus de production solaire qu'en hiver. À une exception près, quand il y a de la neige. La réverbération de la neige va faire produire aux panneaux quasiment autant d'énergie qu'en été. Le positionnement de nos panneaux est important également. On l'a vu tout à l'heure, si il y a une ombre qui arrive sur un panneau, en fait, on arrête la production d'électricité. Il faut donc pas d'ombre. On peut également orienter notre panneau plutôt vers l'est, plutôt vers l'ouest ou plutôt vers le sud. Alors en général, on vous dit plutôt vers le sud. Pourquoi ? Parce que vers le sud, c'est là où il y a le plus de soleil. Seulement, orienté vers l'est, on aura de l'énergie plutôt le matin et orienté vers l'ouest plutôt le soir et orienté vers le sud plutôt à midi. En fait, il s'agit d'adapter la production de notre maison à sa consommation en privilégiant soit une orientation est, ouest ou sud. Encore une fois, il est important de ne pas avoir d'ombre sur notre production. Une cheminée, un bâtiment, un pâteau, un fil, un arbre, tout ça vient faire de l'ombre et vient annuler l'ensemble de notre production. L'installation. Il a été d'usage d'intégrer au bâti les installations solaires pour obtenir des subventions de l'État. Cela indique qu'on retire la protection de notre toiture et à la place, on y met des panneaux solaires. C'est chercher beaucoup de complications. La surimposition est la deuxième possibilité qu'il y a privilégiée de nos jours. On vient installer les panneaux solaires au-dessus. C'est une seconde barrière, en quelque sorte, aux intempéries. Est-ce que c'est difficile à faire ? Le plus difficile, c'est passer la toiture pour accrocher les rails des panneaux et les branchements électriques. Mais un bon bricoleur peut le faire. Alors, pourquoi je vous parle de bricoleur ? Parce qu'un installateur, quand il vient, il veut installer le maximum de panneaux, rentabiliser sa journée. Et du coup, vous allez avoir du mal à trouver des installateurs qui veulent bien installer 2-3 panneaux, pas plus. Quant aux démarches, elles sont relativement simples. Il s'agit juste de déclarer les travaux, puisqu'on vient changer l'aspect de la toiture. Il faut déclarer son site de production. Alors, si on installe ses panneaux solaires soi-même, est-ce que l'on peut ou pas revendre son électricité ? La réponse est non, on ne peut pas revendre, on peut juste la donner. Pour la revendre, il faut absolument avoir une validation d'un installateur agréé. Alors, revenons à la synchronisation sur la production et la consommation. Quelques astuces. Par exemple, au lieu de faire préchauffer son four, déjà, on peut ne pas le faire préchauffer. Ou sinon, le faire préchauffer seulement avec un seul élément. Par exemple, la solde du four. Cela prendra deux fois plus de temps, mais vous utiliserez beaucoup plus vos panneaux solaires. On peut également repousser la lessive au lendemain, quand il fait meilleur. En plus, elle séchera plus rapidement. On peut également reporter les grosses lessives aux jours de forte production. Par exemple, les couettes, ne pas les laver en hiver, mais les laver plutôt en été. On peut également stocker le surplus de production de ce chauffe-eau électrique. On peut délester le chauffe-eau électrique les jours couverts. Il gardera de l'eau chaude pendant ces quelques jours. Synchroniser la production et la consommation, c'est un jeu et c'est un jeu d'enfant. Pour résumer, il faut d'abord bien évaluer ses consommations. Il faut prendre le temps de bien penser à comment intégrer sa production et sa consommation. Il faut dimensionner au plus juste, sinon c'est une énergie très carbonée, et lisser la consommation, c'est-à-dire synchroniser la production avec sa consommation. C'était les Croissants Décroissants, un magazine d'écologie sans chichi. J'espère que cette émission vous a plu. Vous pouvez toujours envoyer vos avis, vos commentaires, vos suggestions à lescroissantsdécroissants@gmail.com. À la prochaine.
Les faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.
L'eau, la terre, le jour du dépassement, la terre, moins 2, pas de déploiement, l'eau, la terre, on a un seul monde pour nos enfants assurément, l'eau, la terre, l'eau, la terre, l'eau, le jour du dépassement, la terre, moins 2, pas de déploiement. La terre, on a un seul monde pour nos enfants assurément. L'eau. La terre.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous ne sommes pas seuls sur cette planète. Et si nous continuons dans ce modèle, nous allons droit dans le mur.